Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
Allez, on retrouve tout de suite le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Eh ouais, éternel suspense, de quoi vais-je parler? Eh bien, je vais encore te parler du réchauffement climatique, mais comme d'habitude, avec une approche différente.
D'accord.
D'accord.
Deuxième partie.
Alors, je vais commencer par une question en fait, Mathieu. Est-ce que tu pourrais me dire quel est le pilier central de la pensée d'extrême droite?
Waouh, je sais pas, c'est le nationalisme et les gens différents, on les aime pas.
Ouais, alors nationalisme, c'est encore ça vient après, c'est le rejet de l'autre, ouais. Le rejet de la différence, tout à fait. Le rejet de l'étranger, celui qui est pas comme nous en quelque sorte. Mais il faut ajouter à ce socle un ingrédient qui va donner tout son sens à la pensée d'extrême droite, c'est qu'il ne s'agit pas de se contenter de rejeter cet autre, cet étranger entre guillemets, il faut aussi le rendre responsable de tous nos maux.
Ah ouais.
On retrouve là un peu le bon vieux mécanisme du bouc émissaire, cher à un anthropologue qui s'appelle René Girard, anthropologue français, qui a étudié ça tout au long de sa carrière. Eh bien Mathieu, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une illustration de ce mécanisme du bouc émissaire dans un domaine très éloigné qui est le réchauffement climatique, justement. Alors dans ce domaine comme dans d'autres, la pensée d'extrême droite va s'attacher à chercher donc des boucs émissaires, en quelque sorte, des responsables à blâmer. Voilà. Et depuis quelques années, bingo, ils ont trouvé leur responsable du réchauffement climatique, de tous nos maux, c'est ni plus ni moins que l'explosion démographique dans le monde. D'accord ?
D'accord, ok.
Et c'est reparti pour un petit salaud de pauvre. Tu te souviens, Mathieu ?
Oui, c'est ça. Bah,
il y a 2-3 semaines, on en avait parlé de salaud de pauvre, hein, référence à Jean Gabin et ouais. Au film La traversée de Paris, de Claude Tandara. Vous êtes trop nombreux, les pauvres. Le réchauffement climatique, c'est de votre faute.
C'est la faute des pauvres, mince.
Exactement, voilà. Comme toujours, pour que la fable du bouc émissaire fonctionne, il faut un storytelling simple, efficace et frappant. Et tu vas voir qu'on a ce qu'il faut. Depuis 1970, Mathieu, les émissions de CO2 ont doublé. D'accord ? Mais est-ce que tu savais, Mathieu, qu'en même temps, durant la même période, la population a aussi doublé ?
Ah, lien de cause à effet.
Et voilà, le tour est joué, t'as compris, lien de cause à effet, la surpopulation a causé le réchauffement climatique, c'est parti. Il faut donc à toute force réduire la population mondiale et on aura réglé le problème du réchauffement climatique.
Super, bah c'est très bien ça.
Voilà. Alors, pour donner un vernis scientifique à cette thèse, on ressort ce bon vieux Thomas Malthus. Thomas Malthus, c'était un prêtre anglican et un économiste contemporain d'Adam Smith. Donc ça date pas d'hier, c'est fin 17e, début 18e siècle. C'est lui le premier qui a formulé le problème potentiel d'une population susceptible d'augmenter bien plus vite que les capacités de production. D'accord ? Donc Malthus a tracé un avenir très sombre où il voyait une augmentation de la population qui créerait inévitablement des tensions pour les ressources. Il a donné son nom à un courant qu'on appelle le malthusianisme, qui consiste à prôner une stricte limitation des naissances pour prévenir ce danger. Alors, avant de continuer, on va faire nos petits malins, Mathieu. Tu vas noter ça pour faire le kéké dans les dîners en ville le soir. Je t'informe, Malthus, en fait, a piqué cette idée à un contemporain beaucoup moins connu que lui, un homme d'église, comme lui, mais qui était médecin et géologue de profession. C'était le révérend Joseph Townsend. Ce révérend a notamment écrit un fameux conte, le conte de l'île aux chèvres, qui semble avoir inspiré Malthus, puisqu'il a été écrit avant les ouvrages de Malthus. Il s'agit d'un récit fictif d'un couple, un couple composé d'une chèvre et d'un bouc,
d'accord,
qui se retrouvent seuls sur une île et qui vont donc faire tic-tic, faire plein de petits et peupler complètement l'île. Jusqu'à ce que des Espagnols déposent sur la même île un couple de chiens, un chien et une chienne, bien sûr, qui vont faire pareil. Ils vont peupler cette île et la descendance et eux-mêmes, ils vont manger les chèvres en quelque sorte.
Ouais.
Et c'est ainsi, morale de l'histoire, que l'île trouve enfin un équilibre démographique par le jeu de la survie entre les chèvres malignes qui arrivent à échapper aux chiens et les chèvres stupides qui servent de garde-manger, bien sûr. Et puis les chiens qui, s'ils sont assez bons chasseurs, prospèrent également. Bref, cette fable, elle n'a pas seulement inspiré Malthus, elle a aussi préfiguré avec 60 à 70 ans d'avance toute l'œuvre de Darwin quand même. C'est quelque chose.
D'accord.
Pourtant, la postérité n'a pas retenu Joseph Stansel. Mais bon, fin de notre petit détour théorique, revenons à, non pas à nos chèvres, mais à nos moutons. La causalité population en augmentation génère des émissions de CO2 n'est rien d'autre qu'une vision stupidement simpliste de la réalité. Donc maintenant, on va mettre un grand coup de balai dans cette vision-là. On va prendre des chiffres tout simples, les chiffres d'émissions de CO2 par personne. Un Européen émet en moyenne 8 tonnes de CO2 par an.
Okay.
Nous, hein, nous ouais. Mathieu. Un Nord-Américain, les Ricains, ils en émettent 15, hein, deux fois plus que
ils
nous.
Ils sont toujours plus forts.
Ah bah ouais, toujours. Les Chinois, les affreux Chinois, hein, d'accord, ils n'en émettent que 6,4 tonnes par an,
ah
moins
ouais.
que les Européens, moins que nous.
D'accord.
Et enfin, un Indien, Alors lui, 1,5 tonnes, il émet rien du tout par rapport
d'accord,
à nous.
Hein. C'est le meilleur écolo.
D'accord ? Exactement. Donc qui pollue, c'est l'Europe et les États-Unis. Les 10% de la population mondiale que constituent l'Europe et les États-Unis sont responsables d'autant d'émissions de CO2 que les 90% restants.
D'accord.
Ouais. D'accord ? Donc salaud de pauvre, ça n'a pas marché là, cette histoire. Alors bien sûr, tu pourrais m'objecter, Mathieu, que nos populations à nous, Européens et Américains, n'augmentent pas, contrairement à celles des pays en développement. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi des Chinois. La population chinoise n'augmente pas. Alors est-ce qu'il faut, comme l'a fait la Chine il y a 42 ans, soyons précis, imposer à l'Inde et aux pays en développement une politique autoritaire de l'enfant unique ? Il faudrait pour ça un État centralisé, autoritaire, et il faudrait que cet État soit en mesure d'imposer une dictature totale. Alors, au-delà de savoir si c'est moralement souhaitable, quand même, hein, il y a quand même cette question-là qui serait à poser.
On peut soulever
quand même
la question, ouais.
En tout cas, de toute façon, ça ne marchera pas dans la plupart des pays. Pourquoi ? Bah parce que tout le monde n'a pas les milliers d'années de culture étatique qu'avaient les Chinois. D'accord ?
Ouais.
Au fait, Mathieu, à ton avis, pourquoi cette explosion démographique à partir des années 70 ?
Je ne saurais pas répondre là.
C'est assez simple. On pourrait dire que c'est une sorte de d'effet positif d'une première vague de progrès, en quelque sorte, un progrès économique, technologique, sociaux, qui ont enclenché dans le monde entier une baisse de la mortalité infantile, même dans les pays en développement, et une certaine augmentation de la durée de vie grâce à une amélioration de la santé. C'est une première couche de progrès, on pourrait dire, qui a généré cette explosion démographique. Mais on reste, à cette époque-là, dans un cadre économique typique du XXe siècle, c'est-à-dire une minorité de pays dominants, Europe, États-Unis, et une majorité de pays politiquement et économiquement dominé, ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. Alors, pour aller au-delà et ralentir cette croissance économique, bref, pour que la fécondité des femmes diminue, il faut passer à une deuxième étape. D'accord ? Et cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le développement économique proprement dit. En fait, concrètement, ça passe par des progrès dans chacun des pays concernés, dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, et notamment l'éducation des femmes.
Ouais.
On en a une illustration constante depuis 40 ans avec les pays émergents qui, tous depuis les décennies où ils ont commencé à décoller, les années 90 hein, globalement, confirment cette évolution. C'est-à-dire que le développement économique, s'il passe par des progrès dans la santé et l'éducation, amène inévitablement en même temps une diminution de la fécondité des femmes. Sauf que... Mathieu, j'ai toujours un sauf que pour toi.
Il a été long.
Eh bien oui, sauf qu'on se retrouve avec un gros problème en fait. Cette conséquence positive de l'entrée des pays dans le développement, donc la baisse de la fécondité, donc le ralentissement de la croissance démographique, elle est contrebalancée par une conséquence négative. Leurs émissions de CO2 par habitant se mettent alors à progresser irrésistiblement.
Et ouais, d'accord.
Et ben ouais. Et c'est comme ça que la Chine est passée en 25 ans de chiffres qui au départ étaient assez proches de l'Inde, on a dit 1,5 tonnes de CO2 émis par habitant et par an, à leur 6,4 tonnes. D'accord ? Donc on a un problème. On pourrait dire que derrière la recherche de boucs émissaires à lyncher, puisque derrière l'idée c'est à cause des pauvres, à cause de la surpopulation, on a cette image des hordes de migrants qui vont déferler sur nos sociétés civilisées. On voit bien hein, derrière le grand fantasme. Derrière tout ça, en fait, le réel s'obstine. C'est notre système de développement industriel capitaliste qui génère les émissions de CO2 qui nous ont menés au bord du gouffre. D'accord ? Et c'est pas l'augmentation de la population. Comme le dit un article du site Uzbek Erika, que je vous mettrai en lien dans le podcast, la question démographique n'est qu'une variable de l'équation du réchauffement climatique. Il ne faut pas réduire les causes à cette simple variable. Alors conclusion, Mathieu, la solution à ça, toujours, elle est politique, tout bêtement. Il faut lutter pour accélérer la mutation vers un système économique plus vertueux. Il faut affronter les lobbies qui freinent des quatre fers, qui ne veulent pas de cette mutation.
Ouais.
Il faut affronter les experts, je mets des guillemets à experts, puisque je parle des experts économistes libéraux qui racontent des fadaises à nos gouvernements. On en a parlé la semaine dernière, Mathieu. D'accord ?
Ouais.
Bref, il y a du boulot, quoi. Alors, ne perdons pas de temps à chercher des têtes à lyncher et regardons les problèmes en face.
Ouais.
J'en ai fini, Mathieu.
C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, prof Patrick. À très bientôt.
À bientôt. Salut les auditeurs.
Ensemble sur Calade.